Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
William Scoresby était un navigateur anglais, explorateur de l'Arctique, un scientifique et un pêcheur de baleines. Il publie en 1820 un livre intitulé « Une description des régions arctiques et de la pêche à la baleine ».
The diamond is a ship, me lads, for the Davis Strait she's bound, and the key it is all garnished with bonny lassies around.
On y trouve de très nombreux dessins de flocons de neige, très précis. C'est un très bon observateur, même s'il ne cherche en aucun cas à comprendre la physique de la neige, contrairement à Kepler, Descartes ou Méran, qui essayent, certes sans grand succès, de comprendre. Il est élu à la Royal Society, puis membre correspondant de la section de géographie et botanique de l'Académie des sciences en 1827. Par la suite, Scoresby deviendra religieux, curé de l'église des marins à Liverpool, et il passera un doctorat en théologie en 1839. Eh oui, science et religion sont parfois difficiles à démêler, même en ce début du XIXe siècle. Voici, par exemple, ce qu'on peut lire dans son livre. Ici se contemplent les gloires de ce Dieu unique, créateur de toutes choses au ciel et sur la terre, et qui, contrairement aux fausses divinités des nations païennes, n'est pas limité par sa présence et son gouvernement à une zone particulière de la surface de la Terre, mais illustre l'habileté et l'excellence de sa création tant dans les beautés des climats glacés que dans celles des climats torrides. Voici donc une description de la neige dans son livre.
Captain Thompson gives the order to sail the ocean wide, where the sun it never sets, me lads, nor darkness dims the sky. And it's cheer up, me lads, let your hearts never fail, for the bonny ship, the diamond, goes a fishing for the whale.
La neige est si fréquente dans les régions arctiques qu'on peut affirmer hardiment qu'il en tombe plus ou moins 9 jours sur 10 en avril, mai et juin, avec des vents du sud, près des lisières de la glace, ou dans des situations où l'air humide venant de la mer se mêle à une brise glaciale venant des glaces, surviennent les plus fortes chutes de neige. Dans ce cas, une couche de 2 ou 3 pouces s'accumule parfois en une heure. Les précipitations les plus épaisses précèdent aussi souvent les tempêtes soudaines. La forme des particules de neige présente une variété sans fin. Lorsque la température de l'air se trouve à 1 ou 2 degrés du point de congélation, il tombe beaucoup de neige, souvent composée de grands flocons irréguliers, semblables à ceux qui sont communs en Grande-Bretagne. Parfois, elle se présente sous forme de petits grains ou de grosses concrétions blanches et rugueuses. D'autres fois, elle consiste en spicules blanches ou en cristaux grossiers et étoilés. Mais, par grand froid, bien que le ciel paraisse parfaitement clair, on voit toujours flotter dans l'air, étincelant dans les rayons de soleil, des flocons lamellaires de neige d'une régularité et d'une beauté extrême. Et la neige qui tombe alors est en général d'une texture et d'un aspect des plus élégants.
Along the quay at Peterhead, the lassies stand around, with the showers all pulled about them and the salt tears running down.
La neige rougeâtre ou brunâtre n'est pas rare. La teinte brune qu'on observe à terre est produite par une substance terreuse apportée des montagnes par les ruisseaux provenant de la fonte des glaces et de la neige ou après une chute de pluie. La couleur rouge, autant que je l'ai observée, est donnée par les déjections d'oiseaux. Bien que, dans l'exemple rencontré par le capitaine Ross, dans la baie de Baffa, la coloration semble avoir été d'origine végétale. Le petit pingouin Alka Alé, qui se nourrit de crevettes, se rencontre en certains points des mers polaires en quantité immense. Il se réfugie souvent sur des morceaux de glace ou des surfaces de neige qu'il tache entièrement de rouge avec leur déjection. Martens vit de la neige rouge au Spitzberg, qu'il considérait comme étant colorée par l'eau de pluie descendant des rochers. La beauté extrême et la variété infinie des objets microscopiques observés dans les règnes animal et végétal sont peut-être entièrement égalés, sinon surpassés, tant en beauté qu'en diversité, par les cristaux de neige. Les configurations principales sont stellaires et hexagonales. Toutefois, presque toutes les formes qui peuvent admettre des angles générateurs de 60 degrés et 120 degrés peuvent être découvertes au cours de quelques années d'observation.
Don't you weep, me bonny lass, though you be left behind. For the rose will grow on Greenland's ice before we change our mind. And it's cheer up, me lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the diamond, goes a-fishing for the whale.
Les diverses modifications des cristaux peuvent être classées en cinq sortes principales ou genres. 1. Lamellaire. D'une variété infinie, d'une structure très délicate et susceptible d'être subdivisée en plusieurs espèces distinctes. 2. Un noyau lamellaire ou sphérique avec des ramifications épineuses dans divers plans. Ce genre comprend également deux ou trois espèces. 3. Fines spicules ou prismes à six faces. Les plus beaux spécimens ressemblent à des cheveux blancs coupés en longueur, n'excédant pas un quart de pouce. 4. Pyramide hexagonale. Je n'ai vu ce type de cristal de neige qu'une seule fois. 5. Spicule ou prisme dont une des deux extrémités sont insérées au centre d'un cristal lamellaire. Ce genre ressemble à une paire de roues réunies par un essieu. Par basse température, la plus grande proportion des cristaux qui tombent sont probablement des figures géométriques parfaites. C'est alors que vient un paragraphe très peu scientifique dans lequel on tente d'expliquer les formes particulières et les plus belles des flocons de neige grâce à la grande cause première, à Dieu et à son infinie sagesse. Certaines variations générales dans la forme des cristaux peuvent être attribuées à la température de l'air. Mais les modifications particulières et infinies des types similaires ne peuvent être rapportées qu'au bon plaisir de la grande cause première, dont les œuvres, jusque dans leurs aspects les plus minutieux et les plus fugitifs, et dans les régions les plus éloignées de l'observation humaine, portent l'empreinte de sa main et manifeste à ces créatures intelligentes sa vaste et bienfaisante sagesse. Si, à ces formes de matière inanimée, il a accordé un ouvrage si excellent, avec combien plus de beauté transcendante vêtira-t-il ceux qui sont rachetés par les richesses infinies de sa grâce et qui, par-delà l'histoire et les productions de tous les mondes, refléteront la splendeur de son visage glorieux. La gelée blanche, ou fumée de givre, est un météore propre aux régions du globe où règne pendant longtemps une très basse température. Elle consiste en une vapeur gelée dense, apparemment issue de la mer ou de toute grande nappe d'eau, et qui par vent violent et mer agitée s'élève à une hauteur de 20 à 30 mètres, mais par brise légère et mer calme rampe le long de la surface. Les particules qui la composent sont aussi fines que la poussière. Elles s'attachent au gréement des navires, ou à presque toute subsistance contre lesquelles elles sont poussées par le vent, et forment un revêtement d'un pouce ou plus d'épaisseur. Ces particules adhèrent les unes aux autres jusqu'à ce que la surface exposée au vent soit entièrement couverte et produise de longues fibres quelque peu prismatiques ou pyramidales dirigées vers le vent. Cette gelée blanche adhère facilement aux vêtements et parce qu'elle se loge dans les cheveux, leur donnant l'apparence d'avoir été poudrée, les marins la nomment plaisamment le barbier. Une partie de cette gelée blanche, détachée du gréement lorsque le navire vire de bord, couvre le pont d'une épaisseur considérable et lorsqu'on marche dessus, produit un son aigu ressemblant au craquement de fines particules de verre. La cause de ce phénomène, généralement non observée tant que la température n'est pas tombée à moins 10 degrés, peut être semblable à celle qui produit la pluie et s'expliquer selon la théorie du docteur Hutton. Here's a health to the resolution, likewise the Eliza Swan. Here's a health to the butler of Montrose and the diamond ship of fame. We wear the trousers of the white and the jackets of the blue. When we return to Peterhead, we'll hass and do. And this cheer up, me lads, let your hearts never fail. For the bonny ship, the diamond, goes a-fishing for the whale. Une vapeur aqueuse, composée de très fines particules gelées, occupe parfois les basses couches de l'atmosphère dans les climats tempérés et froids, durant les temps de gel, et se dépose sur le sol, sur les surfaces de glace ou sur presque toute autre substance qu'elle touche. Cette vapeur semble être de la nature de la gelée blanche. Elle apparaît généralement le soir, après une journée ensoleillée. It'll be bright both day and night when the Greenland lads come home with a ship that's full of oil, me lads, and money to our name. We'll make the cradles for to rock and the blankets for to tear, and every lass in Peterhead sing hush. Vous avez écouté Bonny Ship, the Diamond, par les Fisherman's Friends, une chanson traditionnelle écossaise, issue du folklore maritime du XIXe siècle. Alors la première strophe dit ceci: le Diamond est un navire, les gars, nous mettons le cap sur le détroit de Davis, le quai est tout décoré, de jolies filles tout autour, le capitaine Thompson donne l'ordre de prendre le large, là où le soleil ne se couche jamais, mes gars, ni les ténèbres n'obscurcissent le ciel, car courage, mes gars, que vos cœurs ne faiblissent jamais, car le beau navire, le Diamond, part à la chasse à la baleine. And it's cheer up, me lads, let your hearts never fail. On the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. And it's cheer up, me lads, let your hearts never fail. On the bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. Bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.